Alors donc, on va parler de la tempérance. Et donc, jusqu'ici, on a parlé des vertus cardinales. Donc, il y a une, je crois, une fois où j'ai introduit. Après, on a, c'est l'ordre un peu traditionnel, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prochaine fois, si mes souvenirs sont bons, mais ça doit, vous verrez sur le site, je crois que c'est les vertus théologales. Et puis après, je ferai un petit peu autre chose. Mais d'autres vertus, je pense l'humilité, et puis après peut-être la douceur ou la... Je voulais commencer ce topo sur la tempérance par, vous connaissez le test du chamallow ? Le test du chamallow. Alors, c'est assez simple, hein, vous pouvez réaliser ça chez vous. C'est avec des petits-enfants, hein, mais bon, vous pouvez avec des plus grands aussi, peut-être que ça marche. Donc, on met un enfant, voilà, avec un chamallow sur la table. Et alors, on lui dit, voilà, je dois m'absenter un quart d'heure. Si tu attends un quart d'heure, tu auras un deuxième chamallow. Si tu n'y attends pas, si vraiment tu n'en peux plus, ben sonne pour qu'on vienne te délivrer du supplice d'avoir un chamallow devant toi. Et voilà. Et il y a une caméra qui filme un peu comment ça se passe. Alors, vous pouvez, il y avait des vidéos, vous pouvez mettre des tests du chamallow sur Internet, vous avez des vidéos. Alors, selon les enfants, ils réagissent différemment. Ils essaient de se cramponner. Il y en a qui regardent le chamallow, il y en a qui lèchent, il y en a qui le sentent, il y en a bon. Et puis, il y en a au bout d'un moment. Voilà, c'est trop fort. Et alors, donc c'est une étude très sérieuse, hein, c'est une étude très sérieuse aux États-Unis. Et alors le professeur qui a fait l'étude, il s'est pas contenté de regarder comment se comportaient les enfants. Il y en a à peu près 30%, donc 70% qui résistent pas, hein. 30% qui arrivent donc au bout du quart d'heure sans manger le chamallow. Et donc, ceux-là en reçoivent un deuxième, bien sûr. Mais, voilà. Et alors, mais ils les ont suivis pendant un certain nombre d'années après, ces enfants. Et alors, c'est intéressant parce que, et il faut des proportions, mais ceux qui ont su résister à la tentation de dévorer le chamallow pendant le premier quart d'heure, ben, à l'adolescence, ils gèrent mieux le stress, ils ont de meilleurs résultats scolaires. Voilà. Après, ils ont regardé pendant 28 ans, hein, après le... donc c'est, et après, quand ils arrivent dans la vie relationnelle, ils ont plus d'amis, ils sont plus appréciés de leurs enseignants. Dans les étudiants, ils réussissent mieux leurs examens, ils entrent dans de meilleures universités, et puis à l'âge adulte, dans leur vie personnelle, ils ont beaucoup moins de problèmes de dépendance, l'alcool ou la drogue. Et dans leur vie professionnelle, ils ont des emplois plus satisfaisants. Et alors, donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas proportionnel au QI. Il y en a qui sont très intelligents, mais ils ne résistent pas longtemps au chamallow. Puis il y en a qui ont un QI moins élevé, mais qui résistent bien au chamallow. Donc ce n'est pas une question d'intelligence. Et du coup, je trouve que pour introduire la tempérance, je trouve que c'est intéressant. Voilà ce que dit le catéchisme. L'alternative est claire. Ou l'homme commande à ses passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux. Voilà. C'est un peu carré, mais ça dit bien quand même quelque chose. La tempérance, c'est pas pour nous embêter ou pour nous brimer ou quelque chose, mais c'est pour mettre un peu d'ordre dans notre vie. Voilà. Alors, trois parties, pour que vous ne soyez pas dépaysés. Première partie, c'est la tempérance en général. Et après, il y aura deux autres parties. C'est les deux aspects majeurs de la tempérance. C'est concernant la nourriture et concernant la sexualité. Hein, donc, trois... Là, en général. Alors, je vais commencer par la définition du catéchisme. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Alors, la tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits, ou dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Alors ça, vous trouvez ça dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1809. Voilà, alors, donc il y a deux grandes catégories, je disais, pour la tempérance, ce qui concerne la table et ce qui concerne le lit, on va dire, la sobriété et la chasteté. Et ça va à l'encontre de deux péchés capitaux, la gourmandise et la luxure. Alors, si vous avez, bon, je l'ai lu assez rapidement, cette définition du catéchisme, la définition du catéchisme élargit un petit peu. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs, alors ça c'est vrai, de la table et du lit, et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Donc ça c'est un autre aspect de la tempérance, mais que je ne vais pas développer. C'est la tempérance par rapport à l'usage des biens matériels, etc. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est moins caractéristique, on va dire, de la tempérance habituellement telle qu'on en parle. Alors, une tempérance justement pour ne pas acheter comme par caprice, en quelque sorte, que ce soit des achats un peu compulsifs, ou voilà, il y a certainement, voilà. Vous voyez, donc, on a étudié rapidement, mais la prudence, c'est plus au niveau de l'intelligence. Ça comporte un peu une part de la volonté, notamment quand il faut se décider et aller jusqu'au bout, etc., de ce qu'on a décidé. Mais c'est plutôt au niveau de l'intelligence. La justice, c'est plutôt au niveau de la volonté, de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est plutôt au niveau de la volonté, et c'est l'amour, c'est notre capacité d'amour, la volonté. La force, on pourrait dire que la force et la tempérance vont de pair un peu. La force est pour affronter des choses difficiles, pour pas se décourager dans des choses difficiles, pour allez, on y va. Et puis la force, c'est pour surmonter notre peur peut-être, ou notre répulsion par rapport à quelque chose de difficile. La tempérance, c'est l'exact contraire. C'est modérer notre attrait. Voilà, on nous tire en arrière parce que on en prendrait bien beaucoup, beaucoup. Et puis, alors c'est le contraire de la force. C'est quelque chose qui nous donne tellement envie que voilà, on a du mal à mettre le frein. Il y en a une. On pourrait dire la force, c'est plutôt l'accélérateur pour y aller. Et puis la tempérance, c'est plutôt le frein, grosso modo. Donc elles sont vraiment complémentaires et on a besoin bien sûr des deux. Et pourquoi ? Parce que justement il y a une hiérarchie dans les biens. Donc la tempérance nous permet de pas se ruer sur le premier bien apparent et puis de passer à côté de choses bien meilleures à côté. Finalement, c'est ça le principe de la tempérance, c'est qu'il y ait de l'ordre et que. Voilà. Et donc, la tempérance, en fait, ça ne veut pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne remet pas en cause le plaisir en tant que tel. Le plaisir est bon. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a tant de plaisir autour de la nourriture, autour de la sexualité ? C'est Dieu qui nous a fait comme ça. C'est dit, s'ils n'avaient pas de plaisir à manger, ils oublieraient de manger, ils mourraient de faim. Et si, alors bon, hors contraception, ce n'était pas le cas, mais s'il n'y avait pas de plaisir dans la sexualité, ben, ils oublieraient, et du coup, ils n'auraient pas de descendance. Alors, le plaisir, c'est aussi quelque chose qui est, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est voulu par Dieu, le plaisir. C'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Après, comme la peur, c'est pas quelque chose de mauvais. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette peur? Est-ce que... et là, dans le cas de la peur, c'est plus pour la vertu de force, mais le plaisir, c'est plus pour la vertu de tempérance. Qu'est-ce que je fais de ce plaisir? Est-ce que je me laisse guider aveuglément par ce plaisir? Ou est-ce que, voilà, je mets de l'ordre? Et il y en a qui disent aussi, et je trouve que c'est intéressant, c'est justement si on est tempérant, on se tempère par rapport à ce plaisir immédiat, ça nous permet aussi, ça permet au désir de grandir. Si tout de suite, dans l'instant, j'ai envie, je mange, le désir, il n'a pas le temps de grandir. Le désir, le temps de l'avant, c'est le temps du désir. On a plusieurs semaines, c'est pas très très long l'avant, mais il y a plusieurs, parce qu'on a besoin de temps pour que le désir grandisse. Et si on se rue sur le premier plaisir qui vient, on laisse pas le désir grandir. Et donc c'est pas, il faut pas le voir comme une frustration. Non, bon, il y a un côté frustration, bien sûr, le chamallow là. Bien sûr qu'il faut, il faut se retenir, mais c'est pour un bien plus grand. C'est pas pour voilà. Et aujourd'hui, on pourrait dire que dans notre société, c'est vrai que c'est une société très hédoniste, hein, l'hédonisme, hein, c'est fait un mot à partir du mot plaisir en grec. Mais du coup, c'est même dans la spiritualité, quelquefois, il y a certains courants un peu déviants, on va dire, du renouveau charismatique, ce qu'on cherche, c'est les émotions. Alors, c'est pas mal d'avoir des émotions dans la prière, on est très content. Mais si on va à la prière que pour les émotions, il y a un problème. On y va pour Dieu, on n'y va pas pour les émotions. Et alors, toujours il y a une purification. Dans notre prière, il y a toujours une purification, parce que mon Dieu, il se cache un petit peu pour voir, est-ce que finalement on y va parce qu'on y trouve du plaisir, ou on y va pour lui. Donc, en tout cas, la tempérance, ça ne dit pas que le plaisir est mauvais, ça ne veut pas dire que la nourriture est mauvaise, ça veut pas. Non, et tout ça c'est bien et c'est bon, mais il y a un ordre, il y a des biens qui sont plus grands que d'autres. Et du coup, donc, c'est important la tempérance. Et là, pour justement nous retenir, pas nous précipiter sur les premiers biens qui se présentent, mais aller à des biens peut-être plus cachés, mais plus profonds. Donc, je continue un peu dans la même ligne. La tempérance, c'est pas nier notre sensibilité. C'est au contraire, notre sensibilité est une richesse. C'est la domestiquer. Hein. Alors, il y a l'image du cheval. Alors, il faut bien le domestiquer, le cheval. Sinon, il va aller n'importe où. Et il nous entraîne peut-être là où on ne voudrait pas aller. Alors, il y a une... je ne sais pas si vous connaissez cette parabole du cavalier et du paysan. C'est une fable tibétaine. Labourant son champ, un paysan fut surpris un jour par le bruit d'un cheval lancé au triple galop. On raconte qu'il aperçut un cavalier, ayant perdu rênes et étrier, cramponné à la crinière de sa monture. « Où vas-tu si vite ? » lui cria-t-il. « Hé, demande-le à mon cheval. » Voilà, ça c'est le désir qui nous emmène, et on ne sait pas trop où il nous emmène, mais voilà, on est parti. Donc, mais la sensibilité en tant que telle est bonne, ce cheval il est bon en tant que tel, seulement il faut le domestiquer un petit peu, sinon, voilà. Encore une fois, et c'est très important dans le christianisme, toute notre sensibilité a sa place, on le voit avec Jésus dans l'évangile. Sa sensibilité à sa place. On ne prône pas ce qu'on appelle l'ataraxie, hein, c'est absence de trouble en grec. Et surtout, il ne s'agit pas de viser l'insensibilité, c'est horrible quelqu'un qui devient insensible. La tempérance, ce n'est pas l'insensibilité. C'est une sensibilité ordonnée. Mais surtout, il ne s'agit pas de nier notre sensibilité. Il ne s'agit pas non plus de mettre des barrières un peu extérieures pour contenir. Ça, parce qu'on est dans le domaine de la vertu. Hein. La vertu, ce n'est pas des barrières extérieures qu'on met. Donc, on met des barrières autour du cheval pour continuer. Sur... Et puis, du coup, il ne se sauve pas trop loin. Non, c'est on domestique le cheval, c'est autre chose. Parce que, et la vertu, justement, c'est... Alors, bien sûr, quand c'est les enfants, ils ont besoin de quelques barrières. Hein. Si vous laissez plein de bonnes choses devant eux, ben... c'est pas spontané d'être à la tempérance, hein, ça s'apprend. Hein, et ça... Alors au début c'est quand même un peu plus prudent. Il y a même des mamans, j'ai appris ça, qui ferment. Il y avait le placard provision, mais il y a une clé sur ce placard, surtout le placard où il y a les bonbons et les... si c'est les petits pois ou tout ça, il y a moins de manger, mais ou là où se trouve le coca ou je ne sais pas. Donc mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus la clé, mais qu'ils sachent que, voilà. Parce que, mais au départ, il faut certainement un peu de barrière. Voilà. Et ça nous vient aussi du péché originel qui a introduit un désordre en nous. C'est ce que la concupiscence, voilà ce que dit le catéchisme. Au sens étymologique, la concupiscence peut désigner toute forme véhémente de désir humain. Ou alors il y a saint Paul qui parle des tendances égoïstes de la chair. Alors, on sait bien que saint Paul, quand il parle de la chair, ne parle pas simplement de ce qui a trait à la nourriture ou à la sexualité. Mais ça en fait partie, hein. Je vous lis donc dans Galates au chapitre 5, versets 16 à 24, je ne vais pas tout lire. Hein, mais... Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises hein, de la chair. Et après, on sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche et un peu plus loin, beuverie, orgie. Mais le fruit de l'Esprit Saint est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà, le fruit de l'Esprit Saint. 150 fruits de l'Esprit, donc il y a le 77e, c'est la maîtrise de soi. Voilà. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de réprimer ces désirs, de les refouler, mais de les intégrer. Hein, parce qu'un désir, quand il est bien orienté, au contraire, c'est une force. On voit bien que les gens qui font des grandes choses, c'est parce qu'ils ont de l'énergie. Mais sinon, alors, vous savez bien, et sans doute d'expérience, hein, pour devenir tempérant, ça, on n'est pas tempérant du jour au lendemain. Et ça demande aussi de savoir se priver de temps en temps. Il n'y a pas de secret, si on n'est pas capable de se priver, ben on aura peut-être un peu de mal à être tempérant. Voilà. Et toujours, je suis toujours dans ma première partie, on a vu que dans le test du chamallow, ça ne dépendait pas du QI. Hein, et c'est intéressant de voir très brièvement le lien entre l'intelligence et le... et tout le domaine émotionnel, en nous, le domaine du plaisir, etc. Saint Grégoire le Grand estime que la gourmandise affaiblit l'esprit dans sa capacité à saisir les vérités spirituelles, alors que la luxure l'annule complètement. Voilà. On voit bien qu'il y a une interférence. Il y a ce dicton que j'aime bien qui dit « Si tu ne vis pas comme tu penses, ben, tu finis par penser comme tu vis. » On se trouve des justifications au bout d'un moment et puis voilà. parce que c'est compliqué d'être dans le grand écart continuellement, mais du coup, notre intelligence, quelquefois, elle est un peu faussée. Saint Paul, dans le début de l'Épître aux Romains, si vous lisiez, on voit, mais les gens sont, je ne sais plus comment il le dit, mais voilà, leur intelligence s'est obscurcie à force de vivre n'importe comment, de se laisser aller dans leurs plaisirs et tout ça. Bon, on le voit bien dans la société actuelle, on arrive à trouver des justifications qui ne tiennent pas debout, mais pour quelqu'un qui a un peu de bon sens, mais on se trouve des justifications parce que, voilà, on est prisonnier de son plaisir. Donc, ça fait partie de notre humanité. Et nous, on l'est tous plus ou moins. Hein. Il y a vous justifiez peut-être tel ou tel petit écart, tout ça, parce que, voilà. Mais encore une fois, les émotions peuvent être précieuses aussi pour notre intelligence. Un jour, j'avais demandé à quelqu'un de m'aider un petit peu pour savoir comment gouverner la communauté. Et à un moment, il m'avait attiré l'attention sur quelque chose, c'était de dire, mais quand vous recevez quelqu'un, bien sûr, vous essayez de comprendre ce que la personne vous dit, bien sûr, vous faites marcher un peu votre intelligence, mais soyez attentif aussi à ce que vous ressentez, parce que ça vous donne d'autres sources d'informations qui ne correspondent pas forcément exactement à ce que la personne dit. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je ne dis pas que je pratique bien, mais j'essaie d'y être un peu plus attentif en tout cas. Et du coup, notre sensibilité est précieuse aussi pour comprendre. Hein, encore une fois, il ne faut pas les opposer. Elle est très précieuse. On parle de l'intelligence émotionnelle. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Hein, parce que... c'est pas les émotions qui nous dictent ce qu'on doit penser, mais elles nous donnent des informations qui sont précieuses. Voilà. Alors, je pourrais vous parler, mais je vais peut-être pas le faire parce que sinon, s'il reste du temps, on pourra revenir là-dessus. C'est le lien entre la joie et le plaisir. Le cardinal Danels, notamment, avait développé ça dans une de ses lettres à l'occasion de Noël en 2004. Pour faire simple, la vraie joie se trouve à un niveau beaucoup plus profond que le plaisir uniquement. C'est moins possessif, voilà, c'est quelque chose qu'on peut partager différemment. Puis, voilà. Et la joie aussi n'est pas contradictoire avec la souffrance. Le plaisir, oui, mais la joie, non. Au contraire, même, j'ai vu un article la semaine dernière où on disait que... je vous lis grosso modo. On imagine que la joie va de pair avec moins de contraintes, de souffrances, de stress et plus de plaisir en tout genre. Et un professeur de psychologie et de sciences cognitives à Yale, aux États-Unis, a publié un article en montrant que ce qui nous rend le plus heureux, c'est une vie qui a du sens. Et cela suppose de s'aventurer hors de sa zone de confort, nécessite des efforts, implique parfois de se battre contre des difficultés. Bref, ça comporte certaines souffrances. Donc, ça, c'est la joie. Tandis que le plaisir, on évite ce qui peut faire souffrir. Mais voilà, la joie, elle va... Et ultimement, la joie va au-delà de la mort aussi, hein, quand on a la foi. Toujours dans cette première partie... Ah oui, et ça, c'est le couronnement, on va dire, la première partie. Alors ça, c'est la perspective proprement chrétienne, mais déjà humaine, mais a fortiori chrétienne. La finalité, la maîtrise de soi n'est pas une finalité en elle-même. Hein, la maîtrise de soi, c'est très bien. Mais pour les chrétiens, c'est pas la finalité ultime. C'est la maîtrise pour mieux aimer. Et ça, je pense que c'est... Parce qu'il y a des personnes qui sont très maîtres d'eux, mais ça... C'est pas le but. Enfin, c'est, ça reste qu'une finalité intermédiaire, cette maîtrise de soi. Le catéchisme le dit d'ailleurs, la charité est la forme de toutes les vertus. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. Pour prendre un exemple tout bête, hein, à table, si vous êtes un peu tempérant, vous vous retiendrez pour prendre la plus grosse part de gâteau pour la laisser à l'autre. Mais vous avez une motivation de charité, c'est pas simplement. Mais si vous êtes complètement intempérant, non, vous ne pouvez pas, c'est trop fort. Vous prenez la plus grosse part de gâteau et puis les autres, tant pis. Mais la tempérance est ordonnée à la charité. Ça, je pense que c'est... pendant le carême 2021, certains ont suivi peut-être le parcours de la traversée. Hein, c'est un parcours du diocèse de Toulon qui avait été fait surtout au début du Covid. Et puis, au moment du carême 2021, d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée de travailler un peu les vertus. Donc, ils ont parlé des vertus. Et vous pourrez retrouver la vidéo du 8 mars 2021, si vous voulez, sur... je trouvais que c'était intéressant. Il marquait le contraste entre le radeau de la Méduse. Alors là, c'était l'intempérance complète. Donc, ils se sont entretués. Enfin bon, et puis ça s'est mal terminé. Et le bunker de la fin de Maximilien Kolb. Où dans un cas, vraiment, ça c'est... Dans l'autre cas, ils sont morts, mais dans la dignité. Selon qu'il y a de l'intempérance ou de l'intempérance, on n'arrive pas au même point. Donc le but, c'est pas une maîtrise de soi un peu orgueilleuse et puis être satisfait de soi. Le but, c'est de glorifier Dieu dans notre corps, comme dit Saint Paul, et puis d'aimer, hein, d'être disponible pour aimer les autres, pour écouter l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça le but. Hein, c'est pas juste la maîtrise pour voilà. Ça va, ça c'est les généralités. Maintenant, je viens à la gourmandise. Alors, peut-être une première chose pour la gourmandise et vis-à-vis de la nourriture, il ne faut pas tout mettre sous l'étiquette péché. Hein, il peut y avoir des compulsions, des choses... Donc, il ne faut pas tout de suite mettre l'étiquette péché. Il y a quelquefois des blessures de la petite enfance ou je ne sais pas qui font qu'on n'est pas, on n'a pas un rapport paisible avec la nourriture ou la boisson. On dit qu'il y a des personnes, on dit qu'ils biberonnent. Mais quelque part, peut-être que ça veut dire aussi quelque chose. Ils cherchent une consolation. Voilà. Bon, après, je n'entre pas dans... Mais mon unique objectif, là, c'est de dire qu'il ne faut pas mettre tout de suite l'étiquette péché, il peut y avoir des compulsions, ce n'est pas forcément si simple que ça. Je me rappelle, un jour, on faisait un pèlerinage, et alors c'était un défi, on était parti à minuit, on faisait 40 km, et avant d'arriver, le matin, il y en a un qui a dit « Ah non, non, si je ne mange pas là, je vais défaillir. » Je crois que c'était dans sa tête que ça se passait, hein. Mais du coup, tout le groupe a dû faire un détour pour passer par une boulangerie et ça a un peu cassé le défi. Mais pour lui, c'était compulsif. Et il était sûr qu'il allait défaillir. Voilà. Et de toute façon, vous savez bien, quand vous jeûnez, c'est beaucoup plus dans votre tête que dans votre corps que ça se passe. Parce qu'un jour, vous avez du travail, vous sautez le repas, vous ne vous en apercevez même pas. Mais le jour où vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous entendez tous les gargouillis, tout ça. Vous savez que vous jeûnez ce jour-là et vous savez, vous vous demandez comment vous allez tenir. Ça se passe beaucoup plus au niveau de la tête que du corps. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des choses et que certains ont une baisse de sucre ou je ne sais pas, mais ça se passe quand même beaucoup au niveau de nos têtes. Hein, donc, mais il peut y avoir des blessures assez profondes, donc il ne s'agit pas de porter des jugements, etc. Donc, c'est pas la question, mais il existe quand même, le péché de gourmandise existe bien. Alors, avant même d'entrer un peu plus loin, J'avais entendu un enseignement de Mademoiselle Lisotte, je ne sais pas si certains connaissent un peu, et pour la nourriture, elle disait trois choses, qu'il y avait trois fonctions de la nourriture, et je trouvais ça très intéressant. Elle disait, bien sûr, c'est prendre des forces, ça c'est évident. Mais c'est aussi au niveau psychologique, ça nous fait du bien, le plaisir de la nourriture nous fait du bien pour nous déstresser au niveau de... De fait, on le fait assez spontanément, hein, certaines fois, on n'a pas besoin de nous l'expliquer. Et d'avoir des choses qui sont bonnes et de goûter, ça nourrit aussi au niveau psychologique, ça nous fait du bien. Ça, c'est un deuxième effet de la nourriture. Et un troisième effet, c'est l'aspect convivial. Le repas par excellence, alors quelquefois, bon, on est seul, mais c'est parce qu'on rêve. A priori, un repas, c'est plutôt fait pour être pris à plusieurs. Hein. Donc, je pense que c'est, il y a un côté, oui, convivial aussi dans le repas. Donc, je pense que après, quand je vais parler du péché de gourmandise, ben on reviendra quand même à ces différents aspects d'une manière ou d'une autre, je pense. La gourmandise est un péché capital. Alors, capital, vous savez que ça ne veut pas dire grave. Péché grave ou péché mortel, ce n'est pas la même chose que péché capital. Capital, ça vient de caput, c'est la tête. Hein, c'est un péché qui en entraîne d'autres. C'est dans ce sens-là. Parce que l'homicide, ce n'est pas un péché capital, mais c'est plus grave que la gourmandise. Je crois que vous en conviendrez facilement. Mais la gourmandise entraîne d'autres péchés.
Comme?
Oh ben, plein de péchés. Bon, déjà, il y en a... et les pères de l'Église disent le manque de maîtrise, l'excès commence à table et finit au lit. Hein? Le manque de maîtrise des plaisirs de la nourriture conduit à celui de la luxure. Voilà. Alors, mais simplement à table. Vous êtes gourmand, ben du coup, vous vous servez plus que ce qu'il faut et les autres n'ont plus rien à manger. Ça, c'est... Alors, le plus grave, ce n'est pas d'en avoir pris un peu trop, c'est que les autres, ben, pendant ce temps-là, quand on est en famille, tout ça, c'est quand même un peu agaçant. ou autre chose, autre exemple, ben, je vous le reprendrai un peu plus loin. Je vous le dis maintenant, c'est quelquefois on est tellement difficile qu'on rend la vie infernale aux autres parce qu'on veut notre nourriture et si c'est, on en fait tout un plat, si je puis dire, c'est si on n'a pas la nourriture qui nous va. Ça, comme on n'est pas tempérant, du coup, ça rejaillit dans d'autres, dans notre relation avec les autres ou tout simplement, bon, on abîme son corps parce que, et puis voilà. Il peut y avoir plein de des effets multiples et divers qui ne sont pas voulus en tant que tels, mais qui sont une conséquence. Voilà. D'ailleurs, vous vous rappelez du péché de Ève ? Alors, je trouve que c'est intéressant. On voit comment la convoitise est combien petit à petit... Alors, on ne sait pas si c'est une pomme, hein, mais ça, ce n'est pas la question. Mais dans la description, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors, petit à petit, je reviens, elle ne voit plus que ça. Et quel était l'arbre au centre du jardin ? L'arbre au centre du jardin, c'était quoi ? Il y a deux arbres, hein, au début, on nous dit. Non. Non, la Genèse nous dit c'était l'arbre de vie qui était au centre et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à un certain moment, c'est très intéressant, vous êtes tombé dans le panneau, hein. Elle voit plus que... Il devient au centre de son attention, oui. Mais au centre du jardin, le premier qui est présenté comme au centre du jardin, c'est l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Mais elle, à un certain moment, parce que aidée un peu par le démon et tout ça, elle ne voit plus que cet arbre qui est désirable, il donne la... voilà. Mais on voit bien le fonctionnement aussi. Quelquefois, du coup, l'intelligence, c'est comme si le champ de vision se rétrécit. Au début, elle voit tout le jardin. Là, elle voit plus qu'une chose, c'est cet arbre, et voilà. Et elle tombe dans le panneau. Voilà. Voilà. Bah, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Je vais sauter quelques petites choses, sinon on est encore là demain, hein. Sauf si vous voulez. Encore une fois, bon, je l'ai déjà dit en général, mais la gourmandise aussi affaiblit notre esprit. Elle nous rend lourds, au propre comme au figuré. C'est Ben Sira le sage, dit. Un estomac léger procure un sommeil réparateur. On se lève le matin et on a l'esprit dispos. Mais les tourments de l'insomnie, les nausées et la colique attendent l'homme glouton. Voilà. Ou Saint Paul, ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, on disait que la gourmandise était un péché capital, mais la tempérance entraîne d'autres vertus derrière. C'est Saint-Nil Sorski, un moine russe, qui dit: quand l'estomac est maîtrisé par une contrainte prudente et intelligente, tout un cortège de vertus pénètre l'âme. Alors, il y a différentes facettes pour la gourmandise. Alors, ce qu'on pense immédiatement, c'est manger trop. Mais il n'y a pas que ça dans la gourmandise. Ça peut être de manger mal aussi. C'est un désir désordonné de nourriture. Mais alors, ça peut être manger trop, mais ce n'est pas seulement ça. D'ailleurs, il y a des mots un peu différents dans notre vocabulaire. Il y a gourmet, gourmand, glouton, enfin. Donc, ça ne veut pas goulu, ou je ne sais pas, il y a des nuances un petit peu différentes selon qu'on s'engouffre, soit là que gourmet, il ne prend pas grand-chose, mais il faut que ça soit choisi. Et il fait le difficile pour beaucoup de choses. Donc, il y a des facettes différentes dans la gourmandise. Hein, alors, la gourmandise, ça peut être aussi, quand on parle de glouton, c'est celui qui avale, mais il ne prend pas le temps de goûter à peine ce qui lui est. Il veut se remplir quelque part, mais il prend pas le temps de. Et donc, ça, au niveau du corps, bon, c'est un peu lourd, voilà, mais c'est bien d'apprendre à apprécier. Se lever de table et plus se souvenir de ce qu'on a mangé avant, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Surtout pour la cuisinière. Elle a passé la moitié de la matinée à faire la cuisine et puis on ne se souvient même pas de ce qu'elle a fait. C'est quand même un peu. Vous êtes d'accord, je pense, hein? Voilà. Et dans la manière de manger. Alors nous, ici, on ne s'attend pas à table. Parce que comme on est en communauté, si ça a le temps de faire le tour, qu'on commence à manger tant de temps que ça arrive là-bas. Donc on y va. Mais c'est pas très poli, hein, j'en conviens, mais on fait comme ça pour que les repas ne durent pas des heures. Alors il ne faut pas être esclave peut-être de certaines règles à table, mais elles ont souvent quand même leur bien fondé, d'attendre, pas se précipiter sur son assiette, mais d'être attentif aux autres et pas être concentré uniquement sur soi et ses besoins. Une fois, on a déjà fait en carême, c'était un exercice, alors qui a plusieurs effets, c'est ne rien demander. Donc il faut que les voisins pensent pour nous. Ça peut être dangereux quelquefois. Donc c'est un bon exercice de carême. Voilà. Mais voilà. Encore une fois, j'en mets une petite couche. Il peut quelquefois y avoir des blessures derrière, donc il ne s'agit pas de porter des jugements. On n'est pas tous faits pareils, donc voilà. Mais de nous rendre attentifs quand même à certains aspects de la gourmandise. Alors, quelques moyens pour progresser. Je vais en donner quelques-uns, hein, mais vous aurez sans doute beaucoup d'imagination pour en... Un premier moyen pour progresser au niveau de la tempérance pour ce qui concerne la nourriture, c'est d'être plus au clair sur nos motivations. Pourquoi est-ce que je mange ? Je mange d'abord pour être en bonne santé, pas d'abord pour assouvir tous mes désirs. C'est aussi, si je mange pour compenser, ben peut-être qu'il y a d'autres manières de compenser. Que de me ruer sur la nourriture, ou peut-être qu'il faut que je rééquilibre un peu ma vie. Donc réfléchir un petit peu sur les motivations, pourquoi est-ce que je mange, ça peut nous faire du bien. Ça peut être aussi, j'aime bien ce dessin, je crois que vous le saurez, c'est de, là vraiment il se focalise, hein, comme on a vu que Ève, au bout d'un moment, elle voit plus que cet arbre-là. Il n'y a plus que cet arbre qui existe. Et quelquefois, du coup, on voyait les enfants avec le chamallow. Les seuls qui ont résisté, c'est quelquefois, il faut savoir fuir. Alors, il y en a, donc, qui balançaient les jambes, tout ça. Enfin, ils essayaient de... Mais ceux qui résistaient le mieux, c'est ceux que, soit qui tournaient la tête, soit qui... Vous ne voyez plus le chamallow. Non, je ne veux pas le voir. Mais du coup, quelquefois, il faut peut-être faire diversion si on n'arrive pas. Ça m'intéresse, dit la petite Thérèse. Je sentais aussi que je n'avais pas assez de vertu pour me laisser accuser sans rien dire. Ma dernière planche de salut était donc la fuite. Donc, quelquefois, il faut fuir. Si on n'arrive pas à résister devant le chamallow, ben. Et ça demande une certaine humilité de se dire, ben voilà, je suis faible devant... si j'ai une bouteille de vin, je la finis à chaque fois. Ben peut-être que j'en fais pas des provisions chez moi. Comme ça, le soir, quand je suis un peu déprimé, j'en aurai pas à proximité. Enfin, après... Mais du coup, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire. C'est, bien sûr que si mon armoire est pleine de chocolat... Ben, c'est plus tendant, si j'en ai pas à la maison, ben, je ferai. Ça m'évitera peut-être certaines tentations. Voilà. Alors, autre piste parmi d'autres, hein, c'est d'apprendre à écouter son corps. Hein, parce que nous, on est en bon gaulois, on n'est pas très, très unifié quelquefois avec notre corps et tout ça, mais. Quand voilà, on sent quelquefois, si je me rends compte qu'après un repas, ben voilà, je suis un peu pesant et tout ça, mais peut-être que je le retiens pour la prochaine fois en me disant, mais non, peut-être que j'ai mangé trois fois trop vite et okay. Du coup, d'écouter un peu ce qui se passe en nous, parce que la nourriture, c'est l'homme n'est pas pour la nourriture, mais la nourriture pour l'homme. Autre piste, c'est d'apprécier tout simplement ce qu'on mange, de prendre le temps d'apprécier. Quelquefois, il y a des gens qui mangent en faisant autre chose. Mais je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, parce que du coup, on ne fait pas attention, on pourrait prendre n'importe quoi à la limite. Hein. Non, d'être à ce qu'on fait. Alors là encore, c'est un juste milieu, hein, il faut pas le but c'est pas non plus d'être concentré uniquement sur ce qu'on va manger avant, après, etc. Hein. Autre piste, ça peut être d'apprendre à manger ce qu'on aime moins, ou se éviter de se resservir de ce qu'on aime beaucoup, ou de jeûner, d'apprendre le jeûne. On n'en meurt pas habituellement. Voilà. Et puis, dernier point, c'est sur l'aspect convivialité. Euh, Justement, que notre attention ne soit pas focalisée d'abord sur la nourriture, mais sur les personnes qui sont autour de nous. Ce qui ne veut pas dire de ne pas goûter et d'apprécier ce qui est. Du coup, il y a des règles, comme je disais avant, à table, qui sont, bon, qui sont intéressantes. Voilà. Il est temps que j'arrive à la troisième partie, sur la chasteté. Alors, sur la chasteté, il y a d'abord quelques fausses idées. Ça sera mon premier point, c'est un certain nombre de fausses idées sur la chasteté. Alors, Jean-Paul II a pas mal travaillé ce sujet avec la théologie du corps, etc. Donc, je le citerai à telle ou telle reprise. D'abord, la chasteté, ce n'est pas la même chose que la continence ou l'abstinence. Alors, bien sûr, pour les religieuses, ça comporte la continence. Mais ce n'est pas la même chose pour les gens mariés, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que les gens mariés n'aient pas à vivre la chasteté. Et puis, la chasteté se vit de façon encore différente pour les jeunes avant le mariage. Donc, la chasteté, ce n'est pas égale continence. La chasteté, ce n'est pas mettre des barrières extérieures. Je me rappelle une fois, il y avait une émission, on présentait des couples qui se préparaient au mariage, et il y avait le couple Cato, avec l'étiquette Cato. Mais la façon dont ils présentaient les choses, c'était un peu affligeant. L'image qui me venait à l'esprit, c'est, vous voyez, avant les courses hippiques, là, les chevaux, ils sont dans des cages. Puis d'un seul coup, c'est le jour du mariage, on ouvre la cage, et toi ben non, c'est pas ça la chasteté, c'est pas ça. C'est pas des barrières et puis après on fait ce qu'on veut. Non, la chasteté, c'est justement, c'est de mettre de l'ordre dans. Voilà. C'est pas des barrières extérieures. Encore une fois, c'est une vertu. C'est quelque chose qu'on apprend. Voilà. La chasteté, c'est pas ne plus avoir de désir. C'est quelqu'un de mort qui n'a plus de désir. Et je pense que c'est. Vous savez, peut-être Origène. Origène, c'est un père de l'Église qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup médité l'Écriture. La raison qu'on invoque souvent pour dire qu'il n'a pas été canonisé, c'est qu'il a demandé à un médecin de le castrer. Et alors, certains disent oui, non, mais là, c'est une interprétation un peu trop littérale de l'Évangile, hein, qui se sont fait eunuque pour le royaume des dieux. Mais du coup. Je crois, semble-t-il, en tout cas, que c'est la raison pour laquelle l'Église n'a jamais voulu le canoniser, parce qu'elle dit non. Il ne s'agit pas de se mutiler ou de mutiler nos désirs. Après, de les ordonner, oui, mais pas de les mutiler. La chasteté, ce n'est pas mépriser le corps. Alors, pour les anciens, il y en a, ils n'étaient pas nés, hein, je suis désolé, mais quand Jean-Paul II est venu au Bourget, hein, il y a une phrase que vous connaissez peut-être par cœur, hein, il s'est adressé aux jeunes, c'est « Ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres, que votre corps soit au service de votre moi profond, que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps ? Non, jamais. Mépris du corps ? Pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. Donc c'est... Mais du coup, voilà, c'est pas un mépris du corps, la chasteté. C'est une maîtrise pour une transfiguration, on pourrait dire. Alors ça, c'était quelques idées, quelquefois un peu erronées, qu'on se fait sur la chasteté, alors qu'elle est, encore une fois, orientée vers l'amour, la chasteté. Alors, la chasteté, c'est intégrer notre sexualité et tous les désirs qui vont avec. Je vous lis, ça c'est dans le catéchisme des églises des évêques de France. C'est en 91, hein, déjà. Le dynamisme, la vertu qui préside à l'humanisation de la sexualité, s'appelle la chasteté. Être chaste, c'est savoir épanouir pleinement ses désirs dans la ligne de sa propre vocation et en fidélité avec le dessein de Dieu. Épanouir pleinement ses désirs dans la ligne de sa propre vocation. C'est le refus de céder à l'anarchie des pulsions sexuelles. Donc la chasteté, c'est d'abord une certaine maîtrise des pulsions. Et là encore, ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait en naissant. Et puis, non, le petit bébé, il n'est pas du tout chaste. Hein. Vous mettez un petit bébé garçon à côté d'un petit bébé fille, ils n'ont pas de problème majeur. À... voilà, c'est... Du coup, la chasteté, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aussi au fur et à mesure, notamment à partir de l'adolescence, etc., où les désirs sont forts. Mais on ne l'a pas au point de départ, la chasteté. Le bébé, il a zéro chasteté. Donc, c'est une vertu qu'on acquiert, et qu'on acquiert quelquefois un peu péniblement, ce qui se fait, ça ne se fait pas tout seul. Il y a un apprentissage. Alors, je vous cite Jean-Paul II encore. Donc, la chasteté est un chemin, certes ardu, qui mène à la joie de l'amour véritable. La chasteté est une vertu difficile et dont l'acquisition demande du temps. Il faut attendre ses fruits et la joie d'aimer qu'elle doit apporter. Mais elle est la voie infaillible à la joie. Donc ça ne se fait pas tout seul, mais ça débouche sur une vraie joie. Alors, voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2337. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne, et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Est-ce que vous connaissez l'histoire des deux moines zen? Alors, je me fais un plaisir de vous la... Voilà. Donc, ces deux jeunes moines zen, ils avaient fait le serment de jamais toucher une femme. Bon, très bien. Un jour, alors qu'ils voyageaient, ils s'apprêtaient à traverser le cours d'une rivière en crue, quand ils virent apparaître une jeune femme d'une rare beauté qui leur demanda de l'aider à franchir les eaux impétueuses. Elle devait de toute nécessité traverser cette rivière, expliqua-t-elle, pour porter secours à son père malade. Toute seule et fragile, elle ne pouvait s'y risquer. Le premier moine, sans même écouter les paroles de la jeune femme, s'avança dans le fleuve et le traversa. Le second moine saisit la femme dans ses bras et plus lentement, plus difficilement, cédant d'une corde, il la porta sur l'autre rive. La jeune femme le remercia et s'éloigna rapidement. Les deux moines reprirent leur marche. Ah. Pendant plus d'une heure, ils restèrent dans le silence. Soudain, le premier moine éclata de colère, de reproche, et dit à son compagnon, « Mais comment as-tu pu briser ton serment ?»« Tiens, lui dit l'hôte, tu penses encore à elle ?» j'aime bien cette petite histoire parce que oui, bon, elle parle d'elle-même. Hein, mais, c'est donc intégrer et c'est l'intégrer et au-delà de la sexualité ou de la génitalité, la chasteté concerne notre relation aux autres. C'est pas très simple hein, d'apprendre la juste distance à l'égard des autres. Et la chasteté, ça nous apprend cette juste distance. Alors c'est plus sa dimension affectivité là, mais quelquefois on a tendance à être trop proche ou trop loin, pas assez chaleureux. Et en plus, ça dépend de la personne en face, parce que la personne en face, elle n'a pas forcément les mêmes attentes, et la même culture, la même éducation. Donc on peut paraître trop distant ou trop... Bon. Mais du coup, la chasteté, c'est apprendre la juste relation avec les autres. Et je pense que c'est intéressant de l'avoir aussi sous cet angle-là. Du coup, en tout cas, ça laisse à l'autre vraiment sa liberté. La chasteté est une manière de ne pas prendre possession de l'autre en quelque sorte, dans la chasteté, mais s'intéresser quand même à l'autre. Pas être indifférent à l'autre, mais pas être possessif par rapport à l'autre. Vous sentez, hein, c'est une juste distance. Et je pense que c'est un aspect important de la chasteté, notamment pour dans la vie consacrée. Mais encore une fois, la chasteté, la finalité de la chasteté, c'est la charité.
La finalité de la chasteté, c'est la charité.
Oui. Le but de la chasteté, c'est la charité. C'est le pape François qui disait « La chasteté est le chemin à suivre pour aller vers un amour authentique. » Alors, il y a... Sainte Thérèse d'Avila avait fait une remarque un peu cinglante, hein, c'est quand même un peu... à propos de certaines sœurs. « Parce qu'elles n'aiment personne, elles croient qu'elles aiment Dieu. » Voilà, la chasteté, ce n'est pas n'aimer personne. Sinon, on a tout, autant faire autre chose. Mais après, c'est aimer de manière ordonnée, bien sûr. Mais la finalité de la chasteté, c'est vraiment l'amour. Hein, c'est pas, mais un amour ordonné, selon notre vocation et selon, bien sûr. Mais la finalité, c'est vraiment l'amour. Alors, le Concile parle justement de la chasteté. En Perfecte Caritatis, c'est un document sur la vie religieuse hein, du Concile Vatican II. La chasteté pour le royaume des cieux, oula, oui, il y a une faute, libère simplement, singulièrement le cœur de l'homme pour qu'il brûle de l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est libérer le cœur pour brûler d'amour, hein, la chasteté. C'est pas éteindre toutes nos capacités d'aimer, ça serait dramatique. Ça nous dessécherait complètement. Et là, c'est quelquefois ce qui peut arriver, où on devient des vieux garçons, des vieilles filles. Mais ce n'est pas le but. Ça, ce n'est pas la chasteté. La chasteté, c'est de vraiment aimer. Il y a un livre qui est paru récemment d'un dominicain, le père Guelette, « La vie en abondance, la vertu de chasteté pour les prêtres et les religieux ». Et alors, la couverture du livre, c'est une soutane avec des, comme une tente avec des choses pour éviter de s'envoler. Alors, dernière chose, c'est qu'est-ce qui peut... quelques pistes pour progresser dans la chasteté. Encore une fois, ça demande de... ça se fait pas tout seul de progresser dans la chasteté, ça demande de... un effort, ça demande un peu de travail. La première chose, je pense, c'est de le vouloir. C'est de vouloir être chaste. Et le vouloir, mais du coup, ça veut dire aussi de nourrir notre intelligence, d'avoir des motifs pour lesquels on peut aimer la chasteté et la désirer. Que ce soit la chasteté consacrée ou la chasteté dans la voie du mariage. Parce que dans une société qui est tout sauf chaste, c'est compliqué. On aurait des tas d'alibis pour ne plus être chaste. Donc, je pense qu'on a besoin de nourrir notre intelligence pour voir notre intelligence, notre cœur, mais dans la parole de Dieu, mais aussi dans des lectures qui nous feront du bien. Pour voir combien la chasteté est importante. Je pense qu'on a besoin de nourrir notre intelligence pour savoir que c'est quelque chose qui en vaut la peine de la vivre. Il y a une deuxième chose, c'est la prudence et l'humilité. Dans notre règle de vie, dans le paragraphe qui est consacré à la chasteté, il est dit, elle nous invite à consentir au sacrifice indispensable de solitude et aux efforts nécessaires d'humilité, de prudence et de prière. Et ça, c'est... Souvent, les gens orgueilleux, ils tombent au niveau de la... Ils tombent assez facilement au niveau de la... Parce que ils ont vite des pots de banane, et puis ils toquent. Parce que je pense qu'il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on n'est pas des surhommes. Ou des surfemmes, je ne sais pas comment on peut dire. Mais, et voilà, et de fuir des occasions dangereuses, comme disait le catéchisme de Saint-Pédis, je crois, mais pas se mettre dans des situations trop compliquées. Parce que, quelquefois, ben, on n'est pas en bois, et voilà. Donc, Alors, il ne s'agit pas non plus d'avoir peur toutes les deux minutes, mais en même temps d'une certaine prudence, une certaine humilité. Je sais que, voilà, on apprend à se connaître aussi. On sait que dans certaines situations, ça pourrait être ennuyeux. Donc, on s'abstient de certaines choses où on pourrait déraper. Voilà, la prudence et l'humilité, ça me semble quelque chose de majeur, en tout cas, pour progresser dans ce domaine-là. Après, il y a l'éducation du regard. Vous repensez à Ève, bien sûr. Mais c'est Jésus qui nous dit déjà quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Donc, vous connaissez la boutade de Raniero Cantalamessa. Quelqu'un lui faisait l'objection, oui, mais s'il y a des belles créatures, on peut les regarder. Alors lui disait, oui, mais le créateur, avec son accent italien, le créateur qui a créé l'œil a aussi créé la paupière pour fermer l'œil sur le nez. Et dans ce domaine-là, on voit que vous voulez un petit cours en air frais ?
C'est chaud ici.
Oui, oui. Vous allez avoir froid cette fois-ci. Bon, il y en a plus pour longtemps. Et on voit que la pornographie fait beaucoup de mal. Parce qu'une image qu'on a enregistrée, elle peut nous poursuivre beaucoup de temps et se graver dans notre mémoire, etc. Et du coup, fausser notre relation avec les autres. Et du coup, au-delà des images qu'on voit, c'est aussi les images c'est toute l'imagination et tout ça qui travaille, qui peut travailler, etc. Voilà. On n'est pas responsable des idées qui nous viennent à l'esprit. Il peut y avoir des idées complètement. Mais on est responsable de ce qu'on en fait. Une fois qu'elles sont là, est-ce que j'ai une connivence avec elles? Est-ce que je les entretiens? Ou est-ce que j'essaie de faire autre chose? Et puis, encore une fois, la fuite, dans certains cas, et de se changer les idées. Dans les paroles, la manière dont on parle, quelquefois aussi. C'est pas mal de parler de la sexualité, au contraire, il faut en parler, mais il y a manière et manière d'en parler. Il y a des manières qui. Voilà. Il y a la chasteté dans les gestes. Voilà. Dans l'habillement, la pudeur. C'est sans doute pas la vertu la plus à la mode, la pudeur. Mais. Et c'est une manière de respecter l'autre et de ne pas le mettre dans la gêne. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être pudibond et de. Voilà. Mais, bon, c'est. Il y a une délicatesse aussi. Alors, pudeur pour le corps, mais pudeur aussi pour les sentiments, etc. Il y a des choses. Avec la télé-réalité et tout ça, il y a des choses. C'est assez déplacé. Et puis, ça rejoint l'aspect des relations, c'est donc de travailler pour avoir une distance assez juste avec les autres, avec les gens qu'on apprécie, mais aussi les gens qu'on n'apprécie pas. Parce qu'il y a des gens, on prendrait vite de la distance, mais peut-être justement, le bon Dieu serait content qu'on s'approche un peu plus de ces personnes-là. Hein. C'est saint Paul, je m'y suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et bien sûr, grandir dans notre relation avec Dieu. Parce que, comme le disait notre règle, hein, la place de. Accepter à un certain moment une forme de solitude. Même quand on est marié, hein, la solitude fait partie de notre vie. Et à un certain moment, je pense que. Et si on vit avec Dieu, c'est quand même plus facile. Voilà. Donc on peut demander à Marie de nous aider un peu dans ce chemin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la tempérance. Donc c'était en général la gourmandise et la luxure. Mais alors, je ne sais pas si vous voulez.
La tempérance dans le, qu'en est-il, la tempérance dans le travail, les engagements ou la famille en fait, parce que c'est parfois des choses qui ne vont pas assez vite pour nous et on aimerait que voilà, et c'est vrai qu'il y a des progressions aussi qui peuvent être.
Alors, mais peut-être qu'on pourrait.
Assez vite, c'est pas le mot, mais pas dans le sens dans lequel.
Alors, la tempérance au premier degré, alors, c'est intéressant parce que là, on n'aborde pas toutes les vertus. Hein. On aborde ce qu'on appelle les vertus cardinales. Hein, c'est les quatre points cardinaux, hein, ça nous donne quelques repères. Après, il y a beaucoup de vertus qui peuvent se rattacher de près ou de loin à ces vertus cardinales. Là, je ne sais pas à quoi je le rattacherai, mais de fait, la prochaine fois, ce sera les vertus théologales, mais je ne vais pas détailler trop les vertus théologales, parce qu'on a fait une année sur la foi, une année sur l'espérance, donc je me suis dit que je n'en allais pas trop détailler. Mais en revanche, après, on parlera de l'humilité, mais peut-être la patience, ça peut être une qui sont. Il me semble qu'il y a quelques vertus comme ça qui peuvent être intéressantes à travailler aussi, dont on a besoin peut-être plus particulièrement actuellement. Le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, avait parlé des vertus qui étaient plus actuelles, en tout cas. Alors, on pourrait voir un petit peu dans ce domaine-là, tu pourras me suggérer.
C'est marrant, parce que la tempérance, moi je l'avais vu aussi, bon, c'est sûr, la gourmandise, etc., mais j'avais vu aussi dans les comportements. Et là, je l'aurais mis sur la maîtrise de soi, vous avez beaucoup parlé de la maîtrise de soi,
oui.
Et je voyais ça dans le cadre de l'éducation, avec la colère, avec comment gérer la colère des enfants, comment ne pas être en colère. Et voyez, et c'est aussi, c'est lié à l'amour, quand on veut chercher à gérer sa propre colère. Jésus a été colérique au temple, s'est mis en colère au temple. Donc la colère non plus n'est pas en soi mauvaise, elle peut le devenir quand on ne sait pas gérer. Donc c'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer en soi. Donc je la voyais aussi dans ce
ah oui.
Alors peut-être que je me suis égarée.
Fourvoyée, prenons. Alors, je pense que ça, c'est pas vraiment la tempérance. La tempérance, c'est mettre un frein, un attrait vers. Alors, la colère, c'est pas un attrait pour quelque chose, hein, c'est autre chose. Mais alors, la dernière fois, dans le cadre de la force, justement, on avait plutôt parlé un petit peu de justement de la patience. Qui se rapproche plutôt de la vertu de force. Hein, oui, je crois que la patience se rapproche plus de la vertu de force que de. Il y a quelque chose de difficile. Comment je réagis pour pas mal réagir? Comment je fais pour.
Dans le travail aussi, mais pas se laisser passionnément pris dans le.
Oui. Donc ça se rattacherait plutôt à la force. La force, c'est par rapport à un mal. Notre réaction par rapport à quelque chose qui nous semble mal, hein, ça c'est plutôt la vertu de force. La tempérance, c'est plutôt par rapport à quelque chose qui nous paraît bien, et au contraire, il faut se freiner un petit peu. Hein. Il y en a, c'est plutôt. Donc, vis-à-vis du mal, c'est plutôt ça se rattache plus à la vertu de force. Il faut de la force pour être doux. Hein, c'est pas les mous, heureux les doux, c'est pas heureux les mous. Il faut une force pour être doux. Parce que spontanément, voilà, on ouvre les écluses et puis.
En fait, je ne voyais pas la tempérance comme quelque chose systématiquement lié à quelque chose de. Bon, vous avez évoqué la gourmandise, mais une modération, un équilibre. Et voilà, donc en ce sens, par rapport aux questions qui viennent maintenant, là, ça me fait penser, et bon, quand je dis ne pas gifler un chien balos, au milieu, il y a la distance, avoir la bonne distance, et peut-être que c'est cet endroit où, voilà, confier son impuissance peut aider.
De fait, c'est vrai que moi j'ai développé la tempérance telle qu'on l'entend dans le jargon ecclésial, on pourrait dire. Mais peut-être, de fait, dans le langage courant, ça a peut-être une acception un peu différente, justement, plutôt de la modération, etc., mais qui est un peu différente, oui.
En fait, vous avez parlé de la, comment on disait, la luxure, donc c'est des rapports désordonnés, quoi, vous avez dit. Et en fait, du coup, c'est une réflexion, c'est une question, mais le rapport désordonné, on le voit tout de suite dans l'excès, gourmandise, on pense à trop manger, quoi. Et en fait, c'est aussi dans le défaut. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est obnubilé par ses régimes, qui ne mange rien, en fait, c'est pas bien non plus, quoi.
Ah, exactement,
C'est un rapport désordonné, c'est dans les deux sens.
Oui,
en fait.
Oui, oui. Oui, ça peut être dans l'excès ou dans le défaut, oui. Oui, oui, exact. Tout à fait juste.
Il y avait la recherche de prendre les forces, de se faire du bien et la convivialité. Est-ce que si on ne cherche pas la convivialité, on ne sort pas, est-ce que c'est mal? Est-ce que, en fait, je prends un exemple. Mon mari est cuisinier et je me dîne souvent seul le soir. J'ai trois jeunes enfants et j'ai le choix entre manger avec eux ou manger seul. Et c'est vrai que certains soirs, j'ai besoin d'être seul face à mon assiette.
Oui, non, mais ça, c'est pas mal. Si vous explosez vos enfants contre le mur parce qu'au bout de la journée, vous n'en pouvez plus, vaut mieux manger seul. Hein. Non, 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 non. Non, non. Et puis, il y a des gens, par la force des choses, mangent seul. Voilà, il peut y avoir des circonstances, mais il faut bien reconnaître que dans une famille, dans l'idéal, le repas est un lieu de convivialité particulier. Voilà. Et ça serait un peu, c'est plutôt que chacun il se servir dans le frigo à l'heure qui lui plaît et tout ça, et qu'on se retrouve plus en famille, ça me paraîtrait un peu dommage. Mais là, pouvoir respirer un petit peu à la fin d'une journée, ça me choque pas. Hein. Non, dans tout ce que je dis, bon, il y a peut-être quelques, il faut pas le prendre forcément au pied de la lettre ou durcir, voilà.
Oui. J'ai l'impression que c'est éteindre nos désirs dans le bouddhisme, je le comprends.
Alors, quand j'ai parlé d'ataraxie, alors l'ataraxie, c'est pas exactement dans le bouddhisme, mais c'est vrai que ça va un peu dans le même sens, où finalement, ce qu'on recherche, c'est plutôt une forme de sérénité, de tranquillité. C'est pas ça qu'on recherche dans l'Église catholique. On cherche à faire la volonté de Dieu, c'est pas la même chose. Et on ne cherche pas forcément une forme de... où on est zen. Bien sûr qu'on ne cherche pas à... on a besoin de repos, etc. Mais la finalité, ce n'est pas d'être zen. C'est de vivre dans la charité. C'est ça notre finalité. Hein, au sommet de toutes les vertus, c'est clair, Saint Paul le dit clairement, c'est la charité. Donc tout doit être ordonné à la charité. Si on recherche justement la... sauf quand les enfants sont insupportables, on a besoin de souffler, mais ça c'est autre chose. Mais si quelqu'un est très centré sur lui et puis ne pense qu'à son bien-être, là il y a quelque chose qui ne colle pas dans la vision chrétienne.
Par exemple, les émotions me traversent. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des indicateurs.
Oui.
Si j'ai conscience de ça, est-ce que ça ne peut pas m'aider à être plus charitable? Parce que justement, je passe moins de temps à m'interroger sur ce qui se passe là, et je suis plus disponible pour les autres.
Alors, Et vous voulez alors, dire, oui.
Parce que, non, parce que j'entends parler. En fait, c'est une réaction sans doute par rapport au fait que, enfin, pour moi, bon, voilà, je suis chrétienne. Mais chacun son chemin pour ouvrir son cœur. Mmh. Voilà.
Ouais. Oui. Alors là, on parlait du bouddhisme. Donc, on est chrétien, on n'est pas bouddhiste. Mais après, on est tous différents aussi. Donc, certains ont besoin de plus de s'ouvrir davantage. D'autres ont besoin au contraire, de se poser un petit peu pour gérer leurs émotions. On a des émotions plus ou moins bouillonnantes. Donc, après, on essaie de faire avec le mode d'emploi qui nous convient le mieux, pour selon notre personnalité, sachant que la finalité, de toute façon, s'arrête d'aimer les autres et d'aimer Dieu et d'aimer les autres.